Psaume 94. Le cri à l'Éternel du résidu pur en Israël, au jour de l'épreuve qui précède la venue de Christ pour établir l'ordre et la bénédiction par le jugement du mal. Versets 1 et 2. Le thème du psaume est présenté dans ces deux versets. Les fidèles réalisent que la bénédiction d'Israël, comme celle du monde, ne peut être introduite que par le jugement du mal. Ils s'attendent donc à Dieu pour qu'il redresse les torts faits à son peuple et pour qu'il exécute le jugement sur les méchants. Ceux-ci, dans l'exercice de la puissance, se sont élevés orgueilleusement contre Dieu et contre son peuple. Maintenant, les fidèles demandent à Dieu de faire luire sa splendeur, de s'élever et d'intervenir ainsi d'une manière directe et manifeste. Versets 3 à 7. Les motifs de cet appel sont clairement établis. D'abord, le triomphe des méchants appelle l'intervention de Dieu. Dans l'exercice de la puissance, ils traitent les autres avec arrogance et les insultent tout en se vantant eux-mêmes. Deuxièmement, le fait qu'ils persécutent le peuple de Dieu réclame une intervention divine. Ils foulent son peuple et affligent son héritage. Troisièmement, le fait qu'ils provoquent Dieu lui-même exige impérativement son intervention. L'impiété des méchants les conduit à dire « Jah ne le verra pas, et le Dieu de Jacob n'y fera pas attention. » Versets 8 à 11. Un avertissement solennel est adressé à la masse incrédule de la nation qui marche avec les méchants quant à la folie et à la méchanceté de ses voies. Ces impies sont nommés les stupides d'entre le peuple. Il s'agit du peuple d'Israël parmi lequel beaucoup se comportent comme des bêtes sans s'inquiéter de Dieu. Comme des insensés, ils satisfont leur convoitise sans craindre Dieu. La folie de leur marche est dénoncée. Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas les discours durs et insolents des méchants? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas leur violence et leur injustice? Celui qui instruit les nations ne châtiera-t-il pas si elles ne prêtent pas attention à son instruction? Celui qui enseigne la connaissance aux hommes ne connaît-il pas la vanité de leurs pensées? Versets 12 et 13. Au jour de l'épreuve, l'âme pieuse apprend que, comme toujours, Dieu emploie les temps d'épreuve pour la bénédiction de son peuple. Aussi peut-elle dire « Bienheureux l'homme que tu châties, ô Jah !» Regardant au-delà de ceux par qui l'épreuve vient, le fidèle voit en elle la main de Dieu en châtiment. Il peut alors dire « Tu châties, tu enseignes, pour le mettre à l'abri des mauvais jours. » Tu châties. C'est reconnaître que derrière la main de ceux qui affligent le peuple de Dieu, il y a la main de Dieu qui juge son peuple. Tu enseignes. C'est admettre que, par le châtiment, Dieu enseigne les siens non seulement en leur montrant ce qui est dans leur cœur, mais en révélant sa grâce, la bonté et la sainteté de son propre cœur, pour que, se détournant d'eux-mêmes, ils se reposent en Dieu. Souvent le châtiment est la voie choisie par Dieu pour enseigner, et l'enseignement divin conduit au repos divin pour le mettre à l'abri des mauvais jours. Versets 14 et 15. Ressentant la méchanceté terrible du monde, l'homme pieux pourrait être tenté de redresser les choses. Il doit pourtant finir par admettre que de telles tentatives se soldent par des fatigues et des déceptions amères. Mais l'âme soumise trouve le repos quand, par le châtiment et par l'enseignement de Dieu, elle discerne que c'est Dieu qui permet, dans ses voies, à la méchanceté de triompher pour un temps alors que les fidèles souffrent. Il est ensuite établi que si les méchants foulent le peuple de Dieu, verset 5, Dieu ne délaissera pas les siens, verset 14, et que si les méchants affligent l'héritage de Dieu, verset 5, Dieu n'abandonnera pas ce qui lui appartient, verset 14. De plus, on voit que le moment où le jugement retournera à la justice n'est pas loin. Maintenant, il y a trop souvent divorce entre le jugement et la justice. La puissance et l'autorité ont été remises entre les mains des gentils, mais ils ont abusé du pouvoir en séparant la justice du jugement. Ce fut manifestement le cas devant le tribunal de Pilate. Le jugement appartenait à Pilate, mais la justice était du côté du saint prisonnier. Le jour vient où le jugement retournera à la justice. Le jugement sera exercé en justice, et ceux qui sont droits de cœur le suivront. Ils approuveront et justifieront le jugement du mal. Le cœur se repose ainsi du mal, non pas en cherchant à s'en occuper, mais en se soumettant dans l'épreuve à Dieu, avec la confiance qu'il ne rejettera pas son peuple, et, le moment venu, il jugera le mal. Versets 16 à 19. S'il y a soumission paisible en présence du mal, une question peut cependant se poser. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui se tiendra avec moi contre les ouvriers d'iniquité? La réponse est que les fidèles bénéficient de l'aide de l'Éternel, verset 17, de sa bonté, verset 18, et de ses consolations, verset 19. En présence du mal, le fidèle peut dire « L'Éternel est mon aide ». En présence des tentations, « La bonté de l'Éternel m'a soutenu ». Lorsqu'il est tourmenté par l'inquiétude, « Les consolations de l'Éternel ont fait les délices de mon âme ». Sans son aide, nous aurions été réduits au silence en présence du mal. Nous n'aurions rendu aucun témoignage pour Dieu. Notre cœur serait devenu étroit et notre langue muette. Sans sa grâce, nos pieds auraient glissé dans le mal. Sans ses consolations, notre âme aurait été accablée par l'inquiétude. Versets 20 à 23. L'âme pieuse réalise l'impossibilité d'établir la moindre communion entre le trône d'iniquité et le Dieu saint. Aussi l'Éternel doit-il juger les méchants, car manifestement, Dieu ne permettra pas ce à quoi il peut s'identifier. Ainsi, au jour de l'épreuve, l'âme apprend à se reposer étant consciente que Dieu est sa haute retraite contre les méchants, son refuge dans la tempête, jusqu'au moment où il jugera le mal et retranchera les méchants.